Vous écoutez, on lit pour vous.
Accueillir des patientes sous les cris et les sermons. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. L'arrivée d'une voiture brise le calme qui règne dans la petite rue boisée La Trobe à Charlotte, en Caroline du Nord. Sur le bord de la route, une pancarte indique « Fermez vos fenêtres et ignorez les manifestants ». Quelques mètres plus loin, une autre montre un fœtus ensanglanté. À l'approche du véhicule, deux groupes bien distincts s'animent sur le trottoir. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ayez pitié pour votre bébé. Dieu ne fait pas d'erreur », crie une femme d'une trentaine d'années. Comme quelques autres personnes présentes sur le trottoir, elle porte un chandail corail sur lequel on peut lire « Hope is here ». L'espoir est là. « Non, avancez, ne l'écoutez pas », interviennent rapidement deux femmes portant un dossard arc-en-ciel en s'assurant de crier plus fort que la manifestante. Armées de pancartes colorées où on peut lire « La clinique est ici » en anglais et en espagnol, elles gesticulent vigoureusement pour guider la voiture. « S'il vous plaît, ayez pitié pour votre fils ou votre fille, venez chercher de l'aide », persiste la manifestante en brandissant des dépliants. La voiture s'engage dans la pente et s'immobilise finalement dans le stationnement du A Woman's Preferred Health Center, l'une des principales cliniques d'avortement en Caroline du Nord. C'est mission accomplie pour les bénévoles de Charlotte for Choice, une équipe vouée à contrecarrer la présence quotidienne de manifestants anti-avortement devant la clinique, l'une des plus ciblées par les manifestants dans le sud-est des États-Unis. Depuis l'annulation de Roe v. Wade, il y a 2 ans, la clinique est l'un des derniers endroits où il est encore possible d'obtenir un avortement dans le sud du pays. La Caroline du Nord interdit la procédure au-delà de 12 semaines et 6 jours de grossesse, un délai moins restrictif que ses voisins du Sud. En Caroline du Sud et en Géorgie, l'avortement est interdit après la 6e semaine et en Floride et au Tennessee, il est complètement banni. Des centaines de manifestants le samedi. En semaine, seule une poignée de membres de « Love Life », une organisation dont l'objectif est de mettre fin au droit à l'avortement, manifeste devant l'établissement. Mais, depuis que l'organisation chrétienne est devenue propriétaire du lot voisin il y a 2 ans, les lieux se transforment complètement chaque samedi, journée où s'y rassemblent des centaines de manifestants anti-avortement. Vers 7 heures le matin, des policiers sont déjà sur place pour éviter les risques de dérapage entre les deux groupes. Des manifestants érigent des tentes et une scène de spectacle sur leur site. À l'extrémité du terrain vague, un haut-parleur est stratégiquement placé pour faire directement face à la clinique, située à une centaine de mètres à peine. Les paroles de Flip Benham, l'un des militants conservateurs les plus connus de la région, résonne à travers la rue. Bible dans une main, microphone dans l'autre. Le pasteur de 76 ans, vêtu d'une paire de jeans et d'une chemise rose saumon, adresse son long sermon aux clientes de la clinique. Vous êtes déjà une mère. Un avortement ne fait pas de vous une non-mère. Vous serez simplement la mère d'un petit bébé mort plutôt que d'un bébé en vie, proclame-t-il haut et fort. Sur le trottoir, Shannon Borrell, la directrice d'équipe de Charlotte for Choice, sort son téléphone pour mesurer le niveau de décibels et s'assurer que le son reste sous les limites légales. Elle a appelé la police de nombreuses fois dans le passé pour violation de la règle. « Vous avez voyagé de si loin pour faire quelque chose d'horrible. Vous voulez régler un problème, mais cette solution n'amène que la mort », poursuit Flip, faisant face aux arbres qui séparent les deux terrains. Vous écoutez « Accueillir des patientes sous les cris et les sermons », un texte de Sandrine Vieira, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. C'est une lutte quotidienne pour Shannon, qui relate que les patientes arrivent souvent à entendre les paroles des manifestants de l'intérieur de la clinique. C'est l'une des raisons de notre présence ici. Ils vont souvent donner de fausses statistiques, raconter des histoires absolument absurdes pour intimider et effrayer les patientes, témoigne-t-elle. Questionné sur ses motivations, Flip affirme être là au nom de Dieu. « Je suis ici parce que Dieu est pro-choix. On donne le choix aux femmes de garder leur bébé, estime-t-il, parlant de la clinique comme des portes de l'enfer. » Vers 8h30, un groupe de membres de l'Église catholique, venus de la Caroline du Sud, arrive. Alignés côte à côte en face de la clinique, ils récitent en chœur le « Je vous salue Marie » pendant une heure avant de quitter les lieux. Puis, c'est au tour des membres de Love Life d'amorcer leur marche de prière. Vêtus d'un chandail bleu portant l'inscription « Nous aimons la vie », les membres, dont plusieurs ont amené leurs enfants, se suivent le long de la rue en boucle. Ils reviennent finalement sur leur terrain où le spectacle d'un groupe de musique chrétienne débute. Tout changé. À l'entrée du stationnement, Viviane D. tient une pancarte pendant que les manifestants attendent l'arrivée d'une voiture. La femme de 35 ans se souvient encore de ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle est venue à la clinique comme patiente il y a 2 ans. C'était le lendemain de l'annulation de Roe versus Wade. Lorsque je suis arrivée pour mon rendez-vous, c'était un véritable chaos, un vrai cirque, se souvient-elle. À l'époque, les manifestants avaient l'autorisation d'organiser des spectacles de musique religieuse juste en face de la clinique. Les gens criaient « Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas obligé de faire cela ». Ils hurlaient vers ma voiture, relate-t-elle. Elle se souvient qu'au moment où elle stationnait sa voiture, ses mains tremblaient. Viviane a été rapidement prise en charge par l'équipe de bénévoles qui l'ont accompagnée de sa voiture jusque dans la clinique. Cela a tout changé. Leur présence a réussi à m'apaiser et à me rassurer. J'ai tout de suite su que je voulais faire partie de cette équipe après, dit-elle. Le sentiment d'améliorer les choses pour les femmes est la raison qui unit tous les bénévoles à la clinique, selon Kim, une bénévole de 33 ans. Les gens qui viennent ici sont de toute évidence épuisés par la route dépassée, et chaque jour, les patientes nous remercient d'être là, dit-elle, visiblement émue. Un avenir incertain. Dans le bureau de Calla Hales, une veste pare-balles posée sur une chaise donne tout de suite le ton. Comme directrice d'une clinique d'avortement, les soucis de sécurité font partie de son quotidien, surtout dans le climat actuel. Depuis les dernières années, elle témoigne avoir été victime de harcèlement et de menaces de mort. Il y a 10 ans, Calla Hales a repris les rênes de la première clinique ouverte par ses parents en 1998. Elle dirige maintenant 4 cliniques à travers la Caroline du Nord et la Géorgie. La cousine de ma mère s'est enlevée la vie parce qu'elle avait été violée et qu'elle n'avait pas accès à l'avortement. Alors, c'est un peu devenu le projet de vie de ma mère, raconte la femme de 34 ans. Lorsqu'elle s'arrête de parler pendant un bref instant, on entend les sermons provenant de l'extérieur, même si les portes de son bureau sont fermées. En pleine campagne présidentielle. La directrice ne peut s'empêcher de craindre davantage de restrictions à l'échelle nationale à l'issue du scrutin de novembre. Aussi dramatique que cela puisse paraître, les droits de nombreuses personnes sont en jeu en novembre, affirme-t-elle. La vice-présidente et candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, s'est fermement engagée à demander le rétablissement de l'arrêt Roe versus Wade, garantissant le droit constitutionnel fédéral à l'avortement. L'ancien président Donald Trump a pour sa part déclaré qu'il n'approuverait pas une interdiction fédérale de l'avortement s'il était réélu, mais Calla Hales n'y croit pas une seconde. Plus récemment, lors du débat présidentiel, le candidat républicain a finalement refusé à plusieurs reprises de dire s'il mettrait son veto à une interdiction fédérale. Peu importe combien un politicien peut changer d'avis à l'approche des élections, ce sont leurs actions qui parlent plus fort que leurs paroles, conclut-elle. C'était « Accueillir des patientes sous les cris et les serments », un texte de Sandrine Vieira, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir.
Merci Taylor Swift, une chronique de Stéphane Laporte, parue le 14 septembre 2024 dans La Presse. Il est de bon ton lorsque le nom de Taylor Swift est mentionné, dans les médias ou au gré d'une conversation, de réagir en lançant, exaspéré, « Ah non, pas Taylor Swift ». Plusieurs amateurs de football deviennent même agressifs lorsqu'on la voit à l'écran durant la diffusion des matchs des Chiefs de Kansas City. Elle, plus capable. Ils vont-tu arrêter de nous la montrer? Non, ils n'arrêteront pas. Ils seraient bien fous de le faire. La durée d'une action au football est en moyenne de 5 secondes. Entre les actions, l'œil de la caméra cherche des moments qui parlent, qui ajoutent au storytelling de l'histoire du match. Le corps arrière, qui ordonne le prochain jeu à ses coéquipiers, les coachs qui se morfondent sur les lignes de côté, les partisans qui réagissent à ce qui vient de se passer. Parmi eux, on choisit ceux qui sont les plus démonstratifs, gars en bedaine, filles qui dansent, enfants qui crient. Les airs bêtes, on évite. On sélectionne aussi les spectateurs qui sont des proches de l'un des joueurs, père, mère, conjointe, et lorsqu'il y en a, les célébrités présentes dans l'assistance, Snoop Dogg, Jack Nicholson ou Matthew McConaughey. Parce que, tant qu'à montrer n'importe qui, aussi bien montrer de temps en temps quelqu'un que les gens, dans leur salon, reconnaissent. Imaginez-vous donc Taylor Swift. Coche les trois cases. Elle est la célébrité la plus connue au monde. Elle est la conjointe du receveur étoile des Chiefs, Travis Kelce. Et elle est l'une des fans les plus démonstratives du stade. Trois bonnes raisons d'apercevoir son joli minois, quelques fractions de seconde à la fois, durant le reportage de la partie. Si ça vous énerve, posez-vous des questions. Faites une petite introspection. Il y a des images beaucoup plus insoutenables sur nos écrans que celles d'une jeune femme enjouée, fière de son chum. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Parlant de chat, venons-en au débat du mardi 10 septembre 2024 opposant Kamala Harris à Donald Trump, durant lequel l'agent Orange nous a révélé que les immigrants échoués à Springfield, pas celui des Simpsons, celui d'autres bonnes familles américaines en Ohio, kidnappaient les chiens et les chats du voisinage pour les manger. L'argument de l'ancien président était le suivant. Si vous ne voulez pas que votre animal domestique finisse en méchoui, c'est à lui qu'il faut dire oui. Pas si vite. Tout cela n'est que fake news colporté par un fake man. Dès la fin de l'affrontement, Taylor Swift a publié sur ses réseaux sociaux un plaidoyer encourageant ses millions de fans à voter pour la candidate démocrate Kamala Harris. Son statut était accompagné d'une photo d'elle, tenant dans ses mains un beau minou. Non pas pour prouver qu'il n'avait pas été mangé, mais pour affirmer qu'elle était une cat lady assumée, se moquant des propos réducteurs tenus par le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, à l'endroit de Mme Harris. Les observateurs politiques se sont empressés de mentionner la publication de Taylor Swift avec un petit sourire en coin. Dans leur œil et leur ton amusé, on comprenait « De quoi elle se mêle, celle-là? » mais on n'a pas le choix d'en parler. De quoi elle se mêle, Taylor Swift? Elle se mêle de ses affaires. Quand les artistes ne s'engagent pas politiquement, on dénonce leur manque d'implication. Quand les artistes s'engagent politiquement, on se moque d'eux. Il faudrait se faire une tête et arrêter de penser qu'on est les seuls à en avoir une. Taylor Swift exerce une influence certaine sur des millions de personnes. En passant, il faudrait arrêter d'ostraciser le mot « influence » à cause des vendeurs de crèmes et d'haltères sur Instagram. Simone de Beauvoir, Confucius, Yvon Deschamps, Rosa Parks, la liste des personnalités qui ont influencé la société pour son plus grand bien est longue. C'est ce que fait Taylor Swift en encourageant ses fans à voter pour une femme progressiste et à rejeter un homme dépassé. On ne peut remettre en question le poids de sa parole. Dans les heures qui ont suivi son message, on a constaté une hausse de 400% des nouvelles inscriptions au registre des électeurs. Il y a des milliers d'Américaines et d'Américains qui n'auraient pas voté sans cet appel de leur idole. Quand on sait que l'élection risque d'être la plus serrée de l'histoire, le geste de Taylor Swift est d'une importance capitale. Pas besoin d'être un Swiftie pour reconnaître la valeur de Taylor Swift. Ceux que son immense renommée agace devraient essayer de la comprendre au lieu de la snobber. Non, Taylor Swift ne sera jamais Simone de Beauvoir. Mais elle ajoute, grâce à ses chansons, sa contribution à l'acceptation de soi et à l'affirmation personnelle de milliers de gens. Et ça, c'est beaucoup plus que ce que font ceux qui lèvent les yeux au ciel en parlant d'elle. Taylor Swift a eu la sagesse d'attendre de savoir de quel bois se chauffait Kamala Harris lors du débat avant d'aider à ce que le feu se répande. Ça prouve tout le respect qu'elle éprouve envers son public. À nous d'avoir le même envers elle et ses fans. Si vous trouvez qu'on la voit trop, c'est votre droit. Mais en ce moment, elle est celle qui attire le plus les regards, la star pour laquelle le plus de gens se déplacent pour aller l'applaudir. Qu'elle ne vous dise rien, c'est très bien. Mais ne méprisez pas ceux pour qui elle veut dire beaucoup. Le vivre ensemble, c'est aussi ça. Taylor Swift ne changera pas le monde. Mais son appui du mardi 10 septembre 2024 aidera, peut-être, à ce qu'il ne s'empire pas. C'est déjà pas mal. Merci, Taylor Swift. C'était « Merci, Taylor Swift », une chronique de Stéphane Laporte, parue le 14 septembre 2024 dans la presse.
L'Australie prévoit fixer l'âge minimal entre 14 et 16 ans. Un texte de l'agence France Presse paru le 11 septembre 2024 dans La Presse. L'Australie va fixer entre 14 et 16 ans l'âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux selon un projet de loi destiné à entrer en vigueur en 2024, a annoncé le premier ministre Anthony Albanese, qui préférerait voir les jeunes sur les terrains de jeu plutôt que devant leurs écrans. Qualifiant ces sites de fléau pour les jeunes, il a affirmé que la loi fédérale instaurant cette limite serait appliquée en 2024, précisant que l'âge minimal pour se connecter à Facebook, Instagram et TikTok devait être fixé entre 14 et 16 ans. Un test de vérification d'âge à la connexion va être mené dans les prochains mois avant que le texte n'entre en vigueur, a ajouté le premier ministre de centre-gauche qui affirme « Je veux voir les enfants loin de leurs écrans et plutôt sur les terrains de foot, dans les piscines et sur les courts de tennis. » Nous voulons qu'ils aient de vraies expériences avec de vraies personnes, parce que nous savons que les réseaux sociaux font du mal à la société, a encore dit le premier ministre sur la chaîne nationale ABC. Interrogé plusieurs fois sur le sujet, Anthony Albanese a indiqué qu'il était personnellement favorable à un âge minimal de 16 ans. Le chef de file de l'opposition conservatrice, Peter Dutton, a apporté son soutien au projet de loi du gouvernement. Chaque jour de retard laisse les jeunes enfants vulnérables aux menaces des réseaux sociaux, a-t-il déclaré. Des critiques. Les analystes estiment cependant qu'une limite d'âge n'aidera pas les jeunes socialement en difficulté. Selon Daniel Angus, professeur à l'Université de technologie du Queensland, le plan gouvernemental est imprudent et irréfléchi parce qu'il intervient avant même le rapport final d'une enquête parlementaire sur les effets des réseaux sociaux sur la société australienne. Ce projet sape l'enquête et les principes de la démocratie délibérative et menace de causer de sérieux torts en excluant les jeunes d'une participation importante et saine au monde numérique, poursuit l'expert qui dirige le pôle de recherche de l'université sur les médias numériques. La loi pourrait rediriger quantité d'enfants vers des espaces en ligne de moindre qualité en supprimant d'importants moyens de connexion sociale, déplore-t-il aussi. D'après Toby Murray, professeur associé d'informatique et de technologie de l'information à l'Université de Melbourne, il n'est même pas certain que les moyens techniques pour appliquer une telle limite existent à ce jour. Le gouvernement est en train d'essayer une technologie de vérification de l'âge, dit-il, mais on sait déjà que les méthodes actuelles ne sont pas fiables, trop faciles à contourner ou risquées pour la vie privée des utilisateurs. Le premier ministre soutient de son côté que les parents attendent une réponse au harcèlement en ligne et une manière de contrôler l'accès aux contenus dangereux publiés sur les réseaux sociaux. Dans le même registre, un projet de loi fixant à 13 ans l'âge minimum pour aller sur les réseaux sociaux a été présenté en avril au Sénat des États-Unis par des législateurs démocrates et républicains, mais aucune date n'est encore fixée pour son examen. En France, le président Emmanuel Macron s'est dit en juin pour une interdiction du téléphone portable avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans. C'était « L'Australie prévoit fixer l'âge minimal entre 14 et 16 ans. » Utilisation des réseaux sociaux, un texte de l'agence France Presse, paru le 11 septembre 2024 dans La Presse.
Le vertige par sympathie. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 septembre 2024 dans La Presse. Marc Julien, un lecteur, a demandé « Pourquoi peut-on avoir le vertige bien assis chez soi juste en regardant une vidéo impliquant des auteurs? » Parce que ce stimulus affecte notre cerveau. Dans cette situation, éprouver du vertige provient d'une réaction de notre cerveau impliquant l'équilibre et l'évaluation des risques. Pour mieux comprendre, attardons-nous premièrement sur l'équilibre avec Christopher Pack, neurobiologiste spécialiste de la vision au neuro de l'Université McGill. Notre cerveau est conçu pour garder nos yeux pointés vers ce que nous sommes en train de regarder, même si notre corps bouge, explique M. Pack. Mais la technologie moderne affecte cette capacité. Quand nous regardons le paysage à travers la vitre d'un train, nous pouvons avoir le vertige. Quand nous regardons quelqu'un au bord d'un précipice dans un film, dans notre télévision, avec le mur du salon dans notre champ de vision, nous pouvons avoir le vertige. Dans ces deux cas, notre cerveau a de la difficulté à comprendre les mouvements. Ce problème est plus aigu chez les gens qui ont une meilleure vision, comme les jeunes, indique M. Pack. Au Collège universitaire de Londres, le neurobiologiste Diego Caschi ajoute un autre élément au phénomène, l'évaluation du risque. La peur des hauteurs est une phobie, dit-il, davantage qu'un problème d'équilibre. Nous pouvons être totalement en sécurité, sur une plateforme stable, avec une rampe, mais avoir le vertige parce que nous sommes au 30e étage et que la hauteur nous semble instinctivement risquée. La même réaction survient quand nous regardons un film dans une situation de ce genre. La clé est l'habitude. Les gens qui sont souvent sur des échafauds vont avoir l'habitude et donc avoir moins peur des risques impliqués avec la hauteur dans ce cas, dit M. Caschi. L'âge, un facteur. Le vieillissement de la population a suscité un regain d'intérêt pour l'étude du vertige. Le vertige peut aussi être lié à des problèmes d'équilibre, explique M. Caschi. C'est alors plutôt un étourdissement. Les étourdissements sont plus fréquents avec l'âge et ils peuvent entraîner des chutes ou alors être causés par des problèmes d'équilibre. Il est important de différencier les causes d'étourdissement. Ça peut être dû à un médicament, à des problèmes neurologiques, à un AVC, à des migraines. M. Caschi a fait le point sur les avancées dans ce domaine en 2020 dans le Journal of Neurology. Les gens qui ont le vertige lorsqu'ils sont jeunes ont-ils plus de risques d'avoir des problèmes d'équilibre lorsqu'ils prendront de l'âge? Non. Il n'y a pas de lien, répond M. Caschi. Mais un autre problème des personnes âgées est qu'elles deviennent craintives. Alors, elles peuvent avoir peur de tomber et limiter leurs activités, même si elles ont un très bon équilibre. Elles surestiment ce risque. En savoir plus, les femmes risquent 4,4 fois plus d'avoir des vertiges et des étourdissements comparativement aux hommes. Source, ACTA, Otorhinolaryngologica. C'était le vertige par sympathie, un texte de Mathieu Perrault paru le 22 septembre 2024 dans La Presse.